Luc Langevin, notre invité de dernière heure, l'illusionniste, qui nous a appris justement, qui nous a donné les détails de sa collaboration avec le Cirque du Soleil. Ça s'enseigne quand même, l'illusion, la magie au sens le plus large. Et vous comptez le faire, Luc, sur le web? On va pouvoir apprendre de vous.
Tout
sur
à
les
fait.
Tutos. T'as déjà commencé, d'ailleurs.
J'ai déjà commencé, ça fait quelques semaines. Des tutos tours, on a appelé ça comme ça. Donc,
tuto-tour.
Ouais, comme tutoriel de tour. Okay. Donc, on a fait une belle contraction. Un beau jeu de mots, comme tu les aimes, Paul.
Oui.
Et donc, c'est ça, à chaque deux semaines, j'en publie un où j'enseigne un tour que les gens peuvent reproduire. C'est des capsules vidéo d'à peu près 3, 4, 5 minutes. Donc, c'est très court. C'est avec des objets que les gens ont chez eux, des élastiques, des crayons, des serviettes de table.
J'ai quand même compris
comment
tu avais fait pour me remettre une fourchette avec chaque pointe de fourchette. Écoute, je pense que ça fait 10 ans.
Oui.
Tu commençais, puis t'étais venu faire un tour, puis t'avais fait ça dans mon bureau.
C'est possible.
Et tu sais que la fourchette est toujours dans mon bureau.
Ah, c'est vrai.
Encore après 10 ans.
Oui, c'est vrai.
C'est très drôle parce que à chaque fois, je la sors.
On pense à toi.
Ah, oh, mais ça fait...
Paul me dit,
c'est ça, les oreilles qui me cillent des fois.
Okay. Alors, c'est ça. Donc là, j'ai appris comment t'avais fait.
Oui. Ben,
j'ai vu que du feu.
Voilà, je commence à dévoiler certaines techniques que j'ai utilisées moi-même parce que je me suis dit, moi-même, j'ai appris la magie par des magiciens qui ont décidé de dévoiler quelques-uns de leurs secrets. Puis j'ai décidé de le faire parce que parfois, l'ingéniosité derrière les tours est quasiment aussi fascinante que les tours humaines. Quand on voit, c'est comme ça qu'on fait ça, on s'émerveille quasiment autant. Puis je me dis, ça peut donner le goût à des jeunes de commencer la magie.
Les jeunes sont fascinés en général. C'est vrai. Les jeunes veulent tous apprendre un ou des trucs
Mais
de magie.
C'est un moyen d'attirer l'attention. Moi, c'est ce qui m'a attiré. Ouais. C'est ce qui fait que je suis allé vers la magie. C'est un moyen noble d'attirer l'attention.
Avais-tu une idole quand tu étais jeune?
Oui. Ben, en fait, moi, il y avait Michel Caillou qui se faisait appeler Michel le magicien qui était dans la boîte
Dieu,
à surprise.
Mais
je l'ai pas connu à la boîte à surprise. Il a fait d'autres émissions.
Mais t'es jeune pour te rappeler.
Oui, c'est ça. C'est ça. Moi, toutes les tonnes de magie avaient joué.
Toi, ton problème, c'est que t'es né trop tard.
J'ai né trop tard. Je l'ai connu sur la fin, mais il m'a appris beaucoup tôt quand j'étais petit.
Ben oui.
Puis par la suite, la première fois que j'ai vu un spectacle de David Copperfield, ben là, ça a concrétisé ce que je voulais.
Moi, je dois te dire que je fais toujours la distinction parce que le terme exact pour te désigner dans ta spécialité, Luc, c'est illusionniste.
Oui, c'est le terme que je
préfère. Et ça le dit, illusion.
Ouais.
Ce qui me fascine le plus, moi, c'est la représentation spatiale dans tout ce que tu fais. Et je vais te dire vraiment ce qui me fascine le plus, c'est lorsque tu utilises l'espace. Disons, mettons, une scène où quelqu'un entre côté jardin et immédiatement peut apparaître côté cour.
Oui.
Et ça, là, j'ai beau savoir que c'est une illusion.
Est-ce que ça va
J'ai beau savoir que c'est répété.
Tu t'auto.
Mais...
oh, boy, non.
Il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre.
Oui, mais c'est une des illusions dont je suis le plus fier. Je pense que vous aviez reçu Alexandre Perron, d'ailleurs, qui a vécu ce tour-là de l'intérieur.
Oui.
Par pur hasard, d'ailleurs. Là. Mais c'est
Alex Perron est venu nous raconter ça et lui-même était mal à l'aise.
Pourquoi?
Ben parce que, je vais te le dire, parce que c'est ton spectacle maintenant demain, justement, que tu promènes encore.
Oui.
Tu es à Saint-Hyacinthe bientôt, puis encore plusieurs spectacles. Mm-hmm. Et il était venu ici, puis je me souviendrai, il se demandait encore ce qui lui était arrivé, en fait. Puis je me disais, non, tu le sais qu'est-ce qui t'est arrivé, c'est parce que tu peux pas en parler, tu as signé quelque chose.
Non, c'est pas
Et
ça.
Il m'a dit, non. Je te jure, non. Parce que moi, dans ma tête, t'avais fait, tu sais, bon, il y avait quelque chose qui se passait derrière et t'avais fait signer à ces gens-là des feuilles pour dire, bon, ben écoute, tu dis à personne qu'on a marché en arrière puis que je t'ai déplacé de boîte en boîte.
Et
Alex
pas
me
ça,
dit,
mon Dieu, non.
J'ai été assis là et c'est vrai qu'il n'y a pas le temps de se passer rien.
Ben
alors,
non.
Il dit, je me suis retrouvé là. Il était aussi étonné que nous.
Mais honnêtement, même si le secret, c'était tu vas marcher derrière puis je vais te faire signer. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, là, pour un tour que je fais à chaque soir, ce serait impossible.
Avec des gens différents.
Oui, quelqu'un ce serait impossible.
Qui donnerait le secret.
Ben oui.
À travers toute l'histoire, je vais mettre de la magie, de l'illusion. Mm-hmm. Quand on regarde les anciens grands magiciens, ceux qui ont marqué l'histoire, est-ce que c'est pas... une spécialité artistique qui est angoissante, dans le sens qu'on se dit tout a été fait.
Ah oui.
Il n'y a plus rien à inventer.
En 2020, là, c'est ça le défi, c'est de trouver qu'est-ce qui n'a pas encore été fait. Ouais, puis moi, en fait, la technique que j'ai pour essayer de trouver justement des effets qui n'ont pas été faits, c'est d'utiliser des technologies qu'il n'y avait pas il y a 10 ans, il y a 20 ans. Là, je sais que si j'utilise ça, je sais que ça n'a jamais été fait. C'est ce qu'on fait avec le numéro de téléportation dont on parle. Il y a 10 ans, je n'aurais pas pu le faire. La technologie dont j'ai besoin pour le faire n'était pas là. Puis c'est la majorité des numéros de mon spectacle aussi, c'est comme ça. Parce que les gens ont accès, non seulement on a vu beaucoup de choses parce que la magie a évolué, puis il y a eu beaucoup de prestations, mais les gens maintenant avec le web, avec YouTube, peuvent voir tout ce qui se fait sur la planète en magie puis en autre chose, donc c'est très difficile de les surprendre. Puis c'est pour ça qu'on doit arriver avec des idées folles, dire, est-ce qu'on peut, par exemple, téléporter quelqu'un, choisi complètement au hasard, qui ne sera pas complice? Si on réussit à faire ça, là, on va frapper l'imaginaire. Là, on a quelque chose de jamais vu.
Ouais. Après maintenant, demain, là, ce spectacle-là que tu vas terminer, puis que tu promènes en France, je vais te reparler de la France, d'ailleurs. Après ce spectacle-là, est-ce que tu es en train de cogiter déjà des choses qui vont arriver pour ton prochain spectacle?
Non, il faut un spectacle comme ça se prépare vraiment longtemps à l'avance. Donc moi, ça fait déjà plusieurs mois que je pense au prochain spectacle,
déjà?
Au show 3. Ouais. Sur papier, il y a une grosse partie du travail qui se fait sur papier où justement, je me pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant qu'on a téléporté une personne dans maintenant, qu'est-ce que je fais pour aller plus loin? Là, et c'est le fun parce qu'on a trouvé récemment la réponse à ça. On commence à voir combien ça va coûter et tout. Mais c'est j'ai déjà commencé, puis c'est un long processus. Parce que c'est contrairement peut-être à un show d'humour ou à d'autres formes d'art, quand on a une idée en tête, avant de la rendre concrète, il y a énormément d'étapes. Il y a une étape, voilà, est-ce qu'on a les moyens de la mettre en œuvre? Est-ce qu'on est capable? Est-ce que ça, de façon technologique ou scientifiquement, est-ce que c'est possible?
Est-ce qu'on peut la promener,
la démonter, la remonter en quelques heures, l'envoyer en France en cargo maritime ou aérien? Il y a tellement de... Est-ce qu'elle marche dans toutes les salles où les angles de vue changent avec la hauteur des balcons et tout? Il y a tellement d'enjeux que c'est ça. Il y a plusieurs étapes qu'il va falloir passer pour que l'illusion voit le jour. Donc, j'ai déjà commencé. En fait, c'est drôle à dire, mais presque toutes les illusions de mon prochain spectacle sont déjà sur papier, quasiment. Puis là, je vais passer les prochaines années à voir comment je les rends concrètes.
Est-ce que le fait d'être père de famille, ça t'inspire?
Oui, évidemment.
Oui, j'imagine.
Oui, ben c'est un bouleversement. Puis c'est surtout de voir un jeune enfant qui s'émerveille devant tout quand on est jeune.
C'est ce que j'allais dire. Donc, il doit trouver son père extraordinaire.
Oui. Ben, pour lui, c'est normal. Lui, il pense que tous les papas sont comme ça. Il va avoir un choc quand il va arriver à l'école, peut-être quelque chose.
Je peux te le dire, moi, à l'époque. Non, c'est pas... Mais tu parles au pluriel, vous êtes une équipe.
Ah, ben oui, oui, oui.
Vous êtes combien?
Ben, beaucoup. J'ai une équipe pour le spectacle sur scène, j'ai une équipe pour la télé. Donc, juste pour le spectacle, par exemple, on est au moins, dans le processus de création, une trentaine. Tu sais, si je compte le metteur en scène, la scénographe, le musicien qui crée les musiques sur les numéros, l'éclairagiste, le directeur, tout ça.
Tous ces gens-là doivent avoir signé, j'imagine, une entente, un contrat de non-dévoilement.
Et tout à fait.
Oui, non, mais je te pose la question, oui, parce que c'est ton gagne-pain.
Ben, tout à fait. Parce que si quelqu'un exposait le secret sur les réseaux sociaux,
c'est fini.
Moi, j'ai beau faire cette illusion-là la meilleure façon possible, il n'y a plus personne qui va vouloir la voir en sachant comment c'est fait. Ouais. Ça tient un fil, une illusion. Ça tient vraiment un fil. Puis si,
comment tu fais? Tu fais confiance aux gens qui travaillent avec toi depuis longtemps?
Ben, d'abord, c'est très difficile d'entrer dans mon cercle, mais quand les gens entrent, moi, je sélectionne des gens avec qui je pense que je peux travailler longtemps. Donc, l'équipe avec qui je travaille, d'ailleurs, en ce moment, par exemple, sur mon spectacle, c'est les mêmes avec qui j'ai travaillé sur le premier et le deuxième. Des fois, il y a des changements pour des questions artistiques. Si on veut changer de style musical, on change de musicien, par exemple. Mais c'est pas toute l'équipe non plus qui est dans le secret. Le musicien, c'est pas nécessairement comment je fais mes numéros. Même René Richard Cyr, qui a fait de la mise en scène, il y a certains tours dont il connaît pas le secret. Quand il n'y a pas besoin, je dis pas.
Ah non, mais c'est pas...
Non, mais c'est parce que...
c'est pas nécessaire.
C'est un metteur en scène. C'est pas celui qui crée le numéro. Mais il y a une distinction à faire.
Mais il participe parfois à la création. Il va me dire, ben ça, tu pourrais-tu le faire apparaître comme ça ou comme ça? Et là, des fois, moi, je dis non, c'est pas possible. Je dis, ah, ben tiens, c'est une bonne idée, ça. Donc, il y a quand même un bout de création collective.
C'est fou quand même, parce que quand tu vas voir un spectacle de Luc Langevin, tu le vois seul sur scène, tu penses que, ben écoute, tu payes ton billet, mais c'est juste ça. Pour lui. Mais non, t'as toute une équipe. Ah, ça doit coûter des sous pour faire rouler
tout
ça.
Tout à fait. C'est la raison pour laquelle on voit peu de spectacles de magie au Québec, parce que c'est des productions qui sont coûteuses. Donc, c'est pas comme juste un tabouret et un verre d'eau pour un humoriste. Donc, c'est des sous. Ça prend du succès à la télé ou ailleurs pour investir tout ça sur la scène.
On va faire une pause. Il est 10h30. Notre invité est Luc Langevin, qui sera en spectacle d'ailleurs au mois de mars, un peu partout au Québec. Mais là, oui. Tu t'en vas d'abord dans les Maritimes.
Oui, je m'en vais au Nouveau-Brunswick. Oui. Oui, la semaine prochaine à Moncton et à Tracadie. Reste des bons billets d'ailleurs si oui. Ça vous intéresse.
Ah, tiens donc.
Oui.
Et ces numéros en Acadie, dans les Maritimes, sont encore plus spectaculaires parce que les numéros surviennent une heure plus tard dans les Maritimes. Alors, vous le voyez en personne, mais ça survient une heure plus tard.
Au réseau Cogeco. Cogeco. Vous écoutez les week-ends de Paul Oud.
Luc Langevin, illusionniste, est notre invité de cette dernière heure. Luc, est-ce qu'il peut y arriver des moments où un numéro est à risque? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a du danger. Danger soit de se blesser ou que les gens qui vont participer à l'illusion risquent de se blesser et que tu dois préparer ce numéro-là soigneusement.
Oui, oui, puis d'ailleurs...
Oui. Ta réponse me surprend.
Ah oui?
Ben oui, je ne pensais pas qu'il y avait...
Moi, j'en fais pas beaucoup de ce type de numéro-là, surtout depuis que je suis papa, parce que je trouve que ça vaut pas la peine nécessairement de risquer ma vie pour de l'entertainment. Mais il y en a qui ont fait leur carrière là-dessus, comme Houdini. Donc, oui, il y a certains numéros qui on donne l'illusion du danger et d'autres où il y a réellement un danger aussi. Moi, récemment, par exemple, j'ai fait une télé en France où je faisais ce qu'on appelle une roulette russe. Donc, il y a 6 béchères d'eau, en fait, sur la table. Mais il y en a un que c'est pas de l'eau, que c'est de l'acide fluorhydrique, mais c'est en tout point identique à de l'eau. Puis il y a une personne qui sait où elle est, puis moi je me mets à boire les verres d'eau, puis si je me trompe, ben évidemment je me mets à boire de l'acide. J'avais fait ce numéro-là d'ailleurs à Guillaume le Métivierge ici, mm-hmm. Je viens de penser au Québec. Donc, et ça, il y a réellement un risque que je me retrouve à boire de l'acide si je me trompe, si je fais une erreur.
Alors tu dois, à ce moment-là, être ultra concentré, quand je dis concentré, totalement.
Mais... C'est quelque chose à laquelle je suis habitué. Ça demande, c'est probablement la chose que ça demande le plus de la concentration lorsqu'on est magicien, parce qu'on doit, il y a beaucoup de petits détails auxquels on doit faire attention pour que l'illusion fonctionne. Mais tout ça, on doit le faire en riant, en parlant aux gens, en faisant comme si de rien.
C'est ça qui est encore plus une distraction supplémentaire, parce que t'es obligé de.
Ben c'est ça. C'est faut pas que les gens se rendent compte qu'il y a tout un calcul puis une concentration derrière.
Et l'acide fluorhydrique, c'est un des acides les plus forts. C'est pas le moment de faire une erreur et de boire dans le mauvais bécher.
Et voilà. Mais évidemment, on prévoit des plans d'urgence quand ça arrive. Moi, j'ai sur moi caché j'ai une fiole d'un liquide de basique,
je bois aussi,
qui aurait... ça a des dommages quand même, mais au moins, tu sauves les dégâts un peu, puis on a un secouriste toujours sur
place. Est-ce que je peux te poser une question directe?
Oui.
C'est pas nécessairement ta tasse de thé dans tes numéros d'illusion, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui disent, où vont les perruches, les oiseaux qui apparaissent chez les illusionnistes. Tu sais, les gens
où
qui
ils vont ou d'où ils viennent?
Non, d'où ils viennent et où ils vont. Dans le sens que ils s'intéressent au sort de ces animaux.
Oui.
Ils sont pas violentés, ils sont pas massacrés.
Maintenant, on n'a plus le droit. On n'a plus le droit de faire ça. Avant, c'était... Je sais pas si vous avez vu le film Le Prestige, où on montre que le secret d'une illusion où on fait apparaître un oiseau, où on téléporte un oiseau, t'as un oiseau qui meurt dans la manche du magicien. Oh. Et avant, ça, malheureusement, ça se faisait vraiment
ça. Ah pas vrai?
Oui, parce que pour cacher l'oiseau dans un endroit le plus restreint possible, il fallait l'écrabouiller, là, en quelque sorte. Aujourd'hui, tu n'as plus le droit de faire ça. Donc, ça a forcé les illusionnistes à trouver des techniques moins dommageables pour les animaux. Donc, c'est proscrit par la loi. Évidemment, si un... Il y a un magicien qui avait gagné un prix aux Olympiades de la magie, la Fésime, où il faisait bouger des poissons comme il le voulait. Puis on lui a retiré son prix par la suite parce qu'on s'est rendu compte qu'il, pour que ça puisse fonctionner, il fallait qu'il fasse quelque chose aux poissons qui n'était pas très... Voilà.
Il y a eu une prise de conscience.
Oui,
là,
oui, tout à fait. Heureusement.
Par rapport à ce qui se faisait.
Oui, une chance.
Un peu comme dans les cirques à l'époque. Alors, oui, avait
exactement. Les éléphants.
Les cirques avec les animaux et tout ça. Oui,
pas seulement les éléphants, d'ailleurs. Tout ce qui était animal. Dans les cirques, ça a changé énormément.
Oui, tout à fait. Ça a changé beaucoup.
Je faisais apparaître une colombe dans mon premier spectacle. Ça a été la même colombe tout le long de la tournée. Puis
bon, ça, c'est bon à savoir. C'est quand moi, j'étais à la fin du monde de Tassateur, j'avais introduit...
Nostradamus.
Pas Nostradamus, mais Nostradamus. Et déjà à l'époque, il y a 20 ans, les gens m'écrivaient en disant « C'est-tu la même tout le temps? » Oui, on s'en est occupé. Oui, elle était nourrie. Oui, elle était dans des conditions idéales. C'était toute l'équipe qui s'en occupait d'ailleurs.
Mais elle est retournée en laboratoire, c'est ça?
C'était des médicaments.
Non, mais curieusement, je suis obligé de l'avouer, on l'avait amenée à l'autre émission Comment ça s'appelait? Le Grand Blond.
Oui. Le Grand Blond. Dis pas ça,
avec, avec un chaud sournois. Non, je suis un modèle de transparence. Il y a des gens, ils ont dit, qu'est-ce que j'avais fait avec Nostan Damas? Ben, j'ai dit, c'est pas moi qui s'en occupais. J'ai dit, il y avait les filles à la recherche qui voulaient l'avoir comme animal de compagnie. Alors, ils s'en sont super bien occupés, de la souris. Et puis, elle a gradué à l'émission
Le Grand Blond. Mais oui.
Elle a gradué.
Oui, ouais, parce qu'elle est, oui, de... est partie de TQS, puis okay, elle a suivi Marc vers TVA, où c'était Le Grand Blond.
C'est une belle histoire.
Attends une minute! On va finir cette histoire-là, parce que je veux pas qu'on nous accuse. Alors, on s'en est occupé aux petits soins. Puis un soir, on arrive en janvier, et il faut faire une prédiction du Super Bowl. Et comme on sait, pardon, la souris d'Astralamas prédisait toujours l'inverse. Alors, si tu voulais avoir une prédiction solide, tu pariais mm-hmm. sur exactement le contraire de ce qu'elle avait prédit. Alors, on fait le truc, puis on avait mis un beau stade de football. On a reproduit un stade de football avec le terrain et tout. Et si elle partait dans une direction, c'était, mettons, les Patriots. Dans l'autre direction, c'était, mettons, les Rams. C'est un exemple que je donne. Et puis, on la laisse aller. Et puis, elle choisit, encore une fois, la mauvaise équipe pour gagner le Super Bowl. Et à la fin de l'émission, hier après, je ne sais pas si c'était l'émotion ou quoi que ce soit, la souris, elle s'est retournée sur ses quatre pattes en l'air.
Non.
Et elle est décédée.
Oh mon Dieu.
Mais elle est morte de sa belle
aucune,
mort.
Aucune...
Pas de drogue.
Non. Pas d'agressivité, pas de drogue, quoi que ce soit. Je crois qu'elle avait fait son temps.
Elle avait tout donné pour cette dernière prédiction.
Probablement.
C'est ça. Elle l'a pas prédit, ça.
Luc, est-ce que tu vas voir des spectacles de magie, oui. d'illusion, de... Est-ce que ça t'arrive? De... Mm-hmm. Puis qu'est-ce que tu penses en général quand tu sors de là? Est-ce que t'es curieux, t'es surpris? Ou est-ce qu'il y a des magiciens, des illusionnistes qui arrivent à te surprendre encore?
Oui, ça, heureusement, ça arrive encore. C'est de plus en plus rare, mais oui, en fait, quand il y a un nouveau spectacle qui sort ou un nouvel illusionniste dont je n'avais pas entendu parler, puis souvent, je vais me déplacer, je vais aller voir qu'est-ce que cette personne-là a à offrir. Des fois, c'est une occasion pour moi aussi de créer des collaborations. Et ça arrive, il n'y a pas si longtemps, j'étais allé à New York, j'ai vu un spectacle d'un magicien qui s'appelle Derek Dalgaudio qui m'a complètement bluffé. Le numéro final, je n'avais aucune idée de comment il faisait. Encore aujourd'hui, je suis pas certain, mais ça m'a énormément inspiré. Je me suis dit, moi aussi, il faut que je pousse, puis je trouve des idées aussi folles que ça. Donc, comme n'importe quel artiste.
C'est là, vraiment comme un sport, ouais. Parce que tu as parlé tout à l'heure des Olympiades.
Oui.
Oui.
Alors, ça veut dire que tu as un niveau international, tu as des gens qui gagnent des choses, d'autres qui perdent des choses, mais il y a une compétition.
Oui, d'ailleurs, ces Olympiades-là, ça s'appelle la FISIM, là, donc c'est un acronyme pour la Fédération internationale des magiciens. Et d'ailleurs, les prochains vont avoir lieu en 2021 dans la ville de Québec, et c'est la première fois dans toute l'histoire de cette compétition-là que ça a lieu en Amérique. Habituellement, c'était toujours en Europe. Et là, ça va avoir lieu dans la ville de Québec en 2021.
Wow.
Donc, et c'est un record d'inscription, parce que c'est des magiciens surtout qui vont là. Il y a un record d'inscription parce que tu as tous les magiciens américains maintenant qui peuvent y aller sans.
Ça va être bon pour Québec. Ça.
Tout à fait.
Et moi, je te suggère tout de suite de préparer un numéro spécial.
Oui.
Non, mais tu vas être chez vous.
Oui,
quand
tout
même
à fait.
Au Québec. Tu prépares un numéro où les Nordiques reviennent.
Oui, c'est
oh,
ça.
Oh mon Dieu.
Ce qui serait une des plus grandes illusions.
Ça tient du miracle, ça. C'est pas de la magie, mais je vais commencer à y penser.
Oui. C'est même plus une illusion, c'est du miracle.
Oui, c'est ça. Crois-moi, t'es le seul qui est capable de faire ça.
Quand on se repose sur moi pour ça, c'est thinking.
Et tu pourrais préparer un autre numéro pour octobre prochain. L'illusion que le Canadien va se retrouver en série.
Oh, ça, c'est difficile.
C'est
ça
des aussi, gros contrats ce matin que vous me donnez.
Écoute, faut que tu pousses un
oui,
peu.
Oui, je sais. Oui, OK. Mon Dieu.
Tu sais, moi, je suis un grand fan. Je suis allé à tes émissions de télé.
Oui.
J'ai été absolument abasourdi. Et je ne comprends toujours pas le numéro j'appelle ça le numéro du rideau de douche. Tu te rappelles?
C'est le rejeunissement.
Ah, ça, c'était effrayant.
Plus poétique, dit comme ça.
Il y avait un jeune...
J'ai manqué ça.
Ah, écoute, c'était épouvantable.
Ah, tu peux reprendre ça sur le web. C'est un des numéros dont je suis le plus fier après la téléportation.
Tu te rappelles, on avait fait ça parmi les gens.
Oui, il y avait Jean-Michel Antille, Brigitte Boisjoli, puis il y avait Myriam
Leblanc.
Qui s'était
mal.
Oui,
elle a eu comme un étourdissement. C'était trop pour elle.
Ouais.
Un jeune qui était habillé pareil comme toi, puis qui te ressemblait.
Ben, je rajeunis. Je donnais l'illusion de rajeunir.
C'est qu'en fait, il rentrait derrière un rideau.
Je montais un rideau quand je le baissais.
Quand le rideau tombait, c'était un enfant qui était habillé pareil comme lui. lui. Ouais. Et vraiment,
moi, j'ai passé une demi-heure.
Très ressemblant.
J'ai passé une demi-heure en dessous du rideau parce que je me suis dit, bon, c'est correct. Il y a un endroit, il y a un cylindre quelconque dans lequel il se cache, l'enfant se cache. Et j'étais sûr qu'il y avait un réseau souterrain. Alors, Luc dit, vas-y. Respecte-le.
T'as donné la permission?
Elle m'a donné la permission, certain. Et là, je faisais le tour.
Et d'ailleurs, c'est sa plus grande frustration d'être revenu bredouille.
J'ai dit à Thérèse, j'ai passé à peu près, non, j'exagère peut-être pas une demi-heure, mais 15 minutes à peu près, à fouiller la trappe qui, avant tout, il n'avait aucun.
Mais c'était dans une émission qui s'appelait « Aux limites de l'illusion ». Justement, on voulait aller aux limites de l'illusion. Donc, je faisais le numéro dans des conditions le plus difficiles possible. Donc, j'étais debout sur une table, montré qu'il n'y avait rien en dessous. Les invités m'entouraient. On mettait des miroirs pour qu'ils puissent voir de partout. Puis c'est ça qui rendait l'illusion aussi très intéressant.
On était en cercle autour. Ouais, donc, il n'y avait pas, un angle mort. Tu sais, il n'y avait pas un endroit où ils disaient, ils se sont installés là parce qu'ils ne pourront pas voir ça. On était tous autour de lui quand c'est arrivé. Il y a un numéro extrêmement impressionnant.
Et quand j'ai voulu percer en France, c'est le numéro que j'ai fait sur le plateau de Michel Drucker. C'est la première ovation que j'ai eue en France. Complètement soufflés.
C'est ce numéro-là que tu avais fait.
Oui.
Avec raison, parce que visuellement, la télévision, c'était extrêmement payant.
Oui, parce qu'on avait mis une caméra un peu surélevée, donc on pouvait voir un peu à l'intérieur du rideau, puis on voyait qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe, en tout cas rien qui dévoilait le secret, finalement, donc ça rendait la chose encore plus bluffante.
Et t'avais en salle, en plus?
Non, on était à circuit fermé, là, c'était que les invités, mais ils étaient sur 360 degrés quand même. Là, donc c'était.
Est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire avec des cartes? Des cartes.
Des cartes à jouer?
Oui.
Oh, je pense que oui.
Il y a encore des affaires à faire. Moi, j'ai l'impression d'avoir tout vu, les numéros de cartes.
Ben, c'est sûr que c'est le classique, c'est l'accessoire fétiche du magicien. Mais il reste encore. C'est parce que c'est un objet que les gens connaissent, qui fait partie de leur quotidien. Et comme magicien, quand tu peux prendre quelque chose du quotidien des gens, c'est toujours plus magique.
Et c'est des numéros de proximité?
De proximité. Souvent. De proximité aussi, souvent. C'est de la prestidigitation. Donc, c'est l'agilité du magicien qui va créer l'illusion. Donc, il y a quelque chose de très virtueux là-dedans. Quand tu réussis à faire un bon numéro de prestidigitation, tu gagnes le respect de tes pairs comme magicien aussi. Donc, c'est pour ça que les cartes sont toujours d'appropriation.
Ben, c'est bon à savoir.
Mais moi, je suis très contente de savoir que tu as préparé et que tu es en préparation pour tes prochains numéros. Puis tu as déjà trouvé des affaires.
Faut gagner sa vie.
Parce que je me suis demandé comment tu allais faire après celui-là, qui s'en va d'ailleurs pour les gens qui nous écoutent là, à Gatineau. Tu es là au mois de septembre, tu es là en plus à Saint-Jérôme au mois de mai. Donc il y a plein de spectacles encore sur ton site.
Oui, je suis sur la fin de ma tournée. Là. À la fin de l'année, on va avoir terminé.
Mais tu as des blitz à faire en France.
Oui, après ça, on va en France. Ouais.
Merci beaucoup, Luc.
C'est un plaisir.
Et on est content de savoir que tu es heureux d'être papa et que ton rôle de père se porte bien?
Tout à fait.
Et fiston aussi?
Fiston se porte très bien, très enjoué.
Et
donc
fiston va tout connaître sur tout.
Oui.
Tu
vas pouvoir lui transmettre ça.
S'il veut, je ne vais rien y rentrer dans la gorge de force, mais s'il y a un intérêt, c'est sûr, il y aura un professeur à sa disposition.
Merci, bon succès, Luc.
Merci.
Merci, Luc.